Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, K2000.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses.
Bienvenue dans Previously. Je suis une intelligence artificielle. On m'a mis dans une voiture. Je m'appelle Kit.
Nous sommes en 1982 et les choses ne vont pas très fort pour les séries américaines. C'est l'époque des primetime soaps, genre Dallas, Dynasty, Falcon Crest et Côte Ouest, des sitcoms familiales et des détectives privés du genre Magnum ou Simon et Simon. Et c'est difficile d'imposer quoi que ce soit d'autre. Pas de chance, le network NBC n'a rien de tout ça. Mais rien. C'est la concurrence, mais lui, il a rien. Dans son bureau à la NBC, le directeur des programmes, le jeune génie de la programmation, Brandon Tartikoff. C'est l'homme qui commence péniblement à faire remonter la cote de popularité et de reconnaissance de sa chaîne à coups d'innovation, du genre East Street Blues ou Cheers. Mais il se pose une question. Comment peut-on faire une série avec, dans le rôle principal, un acteur super top modèle, attirant, enfin une bombe quoi? Parce que généralement, la très grande majorité des acteurs, jeunes et beaux, ils savent pas bien jouer. Et c'est bien quand même de lancer des séries innovantes, mais c'est bien aussi de lancer de belles grosses séries d'aventures bien populaires avec une belle audience. Ça serait sympa, hein. Alors, il invente comme ça, presque comme un gag, la série L'Homme aux six mots. Ah ouais, la série L'Homme aux six mots. Le personnage, au début de chaque épisode, il sort du lit d'une très belle fille et dit « Thank you », merci. Ensuite, il poursuit le méchant. Et une fois coincé, il lui dit « Freeze ». On ne bouge plus. Enfin, alors qu'il amène le criminel derrière les barreaux, la victime est là et elle lui dit « Merci ». Et lui, il répond « You are welcome ». De rien. Six mots en tout. Voilà, fin de l'épisode. Entre ces deux actions, entre toutes ces actions, l'idée de génie, c'est que c'est une voiture qui fait la causette. Bon, évidemment, tout ça, c'est une boutade. Ou pas. Créer une série où un acteur qu'on engage plus pour sa plastique que pour son talent, qui a le moins de choses à dire, et une voiture super sophistiquée qui réfléchisse à sa place, c'est peut-être une bonne idée. Ça vaut la peine de tenter le coup. Tartikoff va alors demander le film Universal de lui proposer un projet de ce type. Et un producteur va répondre présent.
J'étais très fier car ils voulaient réaliser une série avec une voiture. Ils sont venus me trouver alors que j'étais à la 20th Century Fox. Il me restait une série à développer pour eux. J'étais tellement flatté qu'ils viennent à moi pour développer ce projet en ce sens. Puis, j'ai découvert plus tard la raison pour laquelle ils étaient venus me trouver, à savoir qu'ils avaient essuyé des refus de la part de tout le monde chez Universal. Mais je me suis bien trouvé d'accepter leur offre de show, car cela a été un franc succès mondial.
L'homme que vous venez d'entendre, celui qui va donc se charger de créer la série, est un ancien chanteur. Sans rire. Il se nomme Glenn Larson. Je l'ai enfin rencontré au MIPCOM de Cannes en 1996. Et son jingle, à la fin de ses séries, c'était ça. Ah ben ouais, là ça vous rappelle quelque chose, hein. Et oui, Glenn Larson. Glenn Larson, c'était un des Four Preps, un groupe vocal qui a produit 11 disques d'or et des tubes comme celui-ci, qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Ça s'appelle 26 Miles Santa Catalina. Et Larson non seulement chante, mais aussi le co-auteur de cette chanson. Il n'a d'ailleurs jamais perdu cette envie de composer des chansons à travers les séries qu'il a créées ensuite. La chanson, par exemple, de L'Homme qui tombe à pic a été composée par lui, mais aussi avec un autre membre de son groupe de jeunesse. Well, I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with Farrah. Larson s'est mis ensuite à écrire pour la télévision. Tout d'abord des scénarios de séries, comme par exemple pour la série, vous vous souvenez, Le Fugitif avec Richard Kimball. Ensuite, il a pu faire ses propres séries, souvent inspirées de succès cinématographiques. Opération Danger, par exemple, n'était ni plus ni moins qu'une version télé de Butch Cassidy et le Kid. Et son Battlestar Galactica a été monté en raison du succès de Star Wars. C'est lui qui a conçu les premières incarnations de Magnum et de L'Homme qui valait 3 milliards. Mais si la saga de Galactica est celle qu'il a toujours préférée et dans laquelle il s'est toujours le plus impliqué, celle qu'il a accaparée à l'aube des années 80, c'est ce projet d'une voiture qui part. Glenn Larson produit depuis 1978 une série qui surfe sur la mode des films et des séries mettant en scène des routiers au grand cœur, genre Le Convoi ou Cours après moi, shérif. Sa série a pour titre Bee Gees and the Bear. Ça s'invente pas. Billy Joe McKay est un routier dont le seul compagnon n'est pas un ours, c'est pas un bear, mais c'est un chimpanzé qui porte le nom de Bear. Ouais, voilà. Bah, c'est pas moi, hein. C'est Greg Evigan qui tient le rôle de Bee Gees. Mais dans un épisode, Bee Gees doit faire face à une voiture indestructible conduite par son ennemi, le shérif Kane. Une voiture indestructible. Tiens, tiens, tiens. Et si on inventait une voiture indestructible grâce à un revêtement révolutionnaire ? Mais une voiture, donc, qui parle, grâce à un ordinateur de bord équipé d'une intelligence artificielle, un peu comme HAL, l'ordinateur de 2001 Odyssée de l'espace. En fait, on prend une Pontiac Firebird noire, que Michael Sheffy, le responsable artistique fabricant de jouets pour Mattel et directeur d'effets spéciaux, va customiser en 18 jours. Depuis, le monsieur a travaillé sur les effets visuels de films comme les Spider-Man ou Starship Trooper, par exemple. C'est donc lui qui créa TAT, le nom de la voiture. TAT, pour Trans-Am 2000, car il s'agit à l'origine du modèle de Pontiac Trans-Am. Mais finalement, plutôt que TAT, on va opter pour un autre nom. KIT, pour Knight Industries 2000, K2000. K2000, tiens, bah on a trouvé le titre français. Bien sûr, Keith avait ses propres doublures pour les séquences de cascade, d'autres Pontiac qui étaient cédés à la production pour $1 symbolique. Seule la kit du héros était équipée avec les écrans et les gadgets, et ce même écran d'ailleurs était reproduit en studio pour tous les gros plans. Et d'ailleurs, tiens, pour symboliser le battement de cœur de Keith, cette intelligence artificielle au sein de la machine, Glenn Larson réutilisa le scanner rouge des Cylons de sa série Battlestar Galactica. La modulation se faisait avec 8 programmes différents, et ça faisait un effet bœuf. Reste la voix de Keith. C'est l'acteur William Daniels de la série médicale Saint-Elsewhere, dans la VO, qui l'enregistrait au mixage de l'épisode, donc après. C'est d'ailleurs lui qui a insisté pour que Keith soit un véritable personnage, avec son ton, son humour, sa moquerie, et pas le robot sans personnalité que l'on imaginait au début. C'est simple, si c'était simplement que de faire la voix d'un simple robot, il refusait de le faire. En France, c'est Guy Chapelier, un acteur que l'on a vu dans une saga de l'été de Jean Sagols, Orage d'été, et qui a doublé quantité de films et de séries, qui fera la voix de Keith. Voilà, on a la vedette de la future série. Ah ouais, bon maintenant, il faut trouver l'acteur. Hein. L'acteur très très beau, qui sait pas où il tombe bien joué. Il faut trouver l'acteur pour monter dedans, quoi. Et ben la vedette, on va la trouver dans Les Feux de l'amour. Non, non, mais ne vous moquez pas, hein. Les Feux de l'amour. Tenir un rôle dans un soap-opéra quotidien, c'est une excellente rampe de lancement pour votre carrière si vous êtes un jeune acteur. Même Tom Selleck et Sarah-Michel Jallard l'ont fait. C'est un apprentissage extrêmement rigoureux, très difficile. Il y a un épisode à tourner par jour. Enfin, vous n'avez pas intérêt à oublier votre texte, quoi, et à vous louper dans les positions face à la caméra. Après avoir joué correctement dans un soap, avec toutes les contraintes que ça implique, vous êtes paré pour jouer absolument n'importe où. Depuis 1975, dans le rôle de Snapper, il y a un acteur à la belle prestance, David Hasselhoff. Il est impressionnant et en 1979, il a aussi joué dans un long métrage. Mais ça, bon, lui-même, il préfère l'oublier. Hein. Un film qui s'appelle Star Crash. Alors, Star Crash, ça nécessite une petite explication. C'est un film italien qui a été fait dans la foulée de la Guerre des Étoiles par un fan italien, Luigi Cozzi, qui s'est un peu improvisé réalisateur sur ce coup-là. Avec un budget de 4 millions de dollars et beaucoup d'effets spéciaux d'Armando Valcoda, très datés, et il cherchait tant bien que mal à ressembler à la Guerre des Étoiles. Les effets spéciaux, c'était plutôt du style étoiles multicolores et robots géants animés image par image. Caroline Munro était la vedette du film, Stella Star, une sorte de Barbarella transalpine, et lui, il tenait le rôle du prince Simon, le fils de l'empereur de la galaxie. Bref, tout ça était peut-être très sympathique, mais quand même, il n'y a que la musique de l'illustre et oscarisé compositeur John Barry que vous êtes en train d'entendre qui vaille la peine dans ce film, quoi, voilà. Mais David Hasselhoff y prouve ses talents de beau gosse. Il devient donc le héros de Knight Rider. Glenn Larson nous parle de lui.
La voiture était plus intelligente que lui. David Hasselhoff téléphonait pour savoir si on voulait se débarrasser de la voiture. Je veux tourner des scènes avec des filles et pas avoir cette voiture dans les pattes tout le temps. David a été formidable tout au long de la série.
Sauf que dans les premières minutes du premier épisode, c'est pas David Hasselhoff qui joue. C'est Larry Anderson, un acteur qu'on a vu dans quelques séries et dans un film Star Trek, Star Trek Insurrection. C'est aussi un magicien qui a collaboré à la série de Bill Bixby, The Magician, en tant que conseiller. Ne cherchez pas, il n'est même pas crédité dans le premier épisode de K2000, il a refusé de l'être. Et pour cause, il n'apparaît qu'au tout début, et c'est même pas sa propre voix, mais c'est celle de David Hasselhoff. Mais tout cela est très normal. Michael Long est un détective, lieutenant de la police, qui est très sérieusement blessé au visage. Il est recueilli par un milliardaire, Wilton Knight, à la tête de la Knight Industries, qui, avant sa mort, veut doter le monde d'un agent sans peur et sans reproche qui combattra les crimes et les injustices. Wilton Knight est incarné par l'acteur de Voyage au fond des mers, Richard Bezahart. Il transforme, par la chirurgie esthétique, Michael Long et en fait Michael Knight, reprenant par là même le nom de sa propre entreprise Knight Industries. Et Knight signifie « chevalier ». Donc, bye bye Larry Anderson, qui a joué uniquement dans quelques scènes, et bonjour David Hasselhoff. On va donc confier Kit à ce nouvel agent. On va lui donner un patron, Devon Miles, incarné par Edward Mulhour, et une technicienne, Bonnie, jouée par Patricia McPherson. Si ce concept de l'homme qui renaît pour devenir justicier vous rappelle un peu quelque chose, c'est que c'est aussi le sujet de Robocop, quelques années plus tard, du Spirit, le personnage de bande dessinée de Will Eisner, mais surtout d'un autre personnage mythique de la pop culture américaine, et Glenn Larson va nous le dire lui-même.
Vous savez, c'est en juxtaposant des éléments que vous avez une opportunité de raconter une histoire d'une toute autre manière. Cette série que nous réalisions, c'était The Lone Ranger. The Lone Ranger avec une voiture. La Pontiac au lieu du cheval.
A fiery horse with the speed of light, a cloud of dust and a hearty Hi-Yo Silver. The Lone Ranger.
Hi-Yo Silver! Away!
Alors, voilà. Le Lone Ranger, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le cavalier solitaire. C'est un personnage de western, créé d'abord pour la radio, puis dans une série télé qui dura 7 années dans les années 50. Elle resta incroyablement populaire. Le Lone Ranger, c'est en réalité un Texas Ranger, John Weed, que l'on croit mort, tué par les bandits, mais en fait qui va porter un masque et devenir un justicier solitaire. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, son descendant, c'est Britt Weed, le frelon vert. Pas de masque pour Michael Knight, mais un nouveau visage, donc celui du fils du regretté Wilton Knight, Garth Knight. En fait, cette nouvelle identité est très peu mentionnée ensuite dans la série. Elle ne sert quasiment à rien sauf à donner un petit peu de mystère initialement au personnage. Si ce n'est qu'à le rappeler dans le générique original, qui précise que Michael Knight est quelqu'un qui n'existe pas. Écoutez.
Knight Rider. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.
Alors que par contre, dans la version française de ce même générique, toute référence est enlevée.
Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture.
Eh ouais, le chevalier et sa monture. Arrive le moment justement de composer ce fameux générique. C'est Stu Phillips qui s'en charge, avec Glenn Larson. Parce que oui, souvenez-vous, Larson a commencé sa carrière en composant des tubes pour le groupe les Four Preps. Donc, comme il l'avait fait dans les génériques de ses autres séries, il va aussi participer à celle-là. Et il puise un peu dans sa collection d'œuvres classiques. Alors voyons voir. Les opéras de Clément Philibert Léo Delibes, un compositeur né en 1815 et mort en 1910. Tiens, Coppelia, son ballet le plus célèbre. Non, c'est un peu trop connu. L'autre maintenant, qui date de 1876, Sylvia. Tiens, écoutons voir l'acte 3, la marche et cortège de Bacchus. Bon, ouais, pas mal. Ah, bah tiens, ça, c'est pas mal. Ben, ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Eh ben, si. Ni vu ni connu, Glenn Larson a carrément pompé sa musique sur un classique qui date de plus d'un siècle. Bon, mais Glenn Larson est, pour être franc, un petit peu coutumier du fait. Vous avez remarqué qu'il s'inspire beaucoup des autres, des films, pour créer ses propres productions. Ça va lui être reproché d'ailleurs. L'acteur James Gardner va en venir aux mains avec lui, car il a purement et simplement plagié des scénarios de sa série, $500 plus les frais, pour en faire une autre série. Bref. Le premier épisode de la série Knight Rider, K2000, est diffusé le dimanche soir du 26 septembre 1982. Et il marche très bien. Les spectateurs sont bluffés par cette voiture qui parle, qui est dotée d'un solide sens de la répartie, d'une armure moléculaire, d'un siège éjectable et qui peut rouler à plus de 300 km/h. Elle peut même aussi sauter des obstacles avec son turbo boost. Dès la première saison, Kit sera opposé à Carr. K-A-2-R, pour Knight Automated Roving Robot, son prototype malveillant parce que doté d'une intelligence artificielle légèrement instable. Bref, une voiture dingue, quoi. Et vers la fin de la saison, Michael Knight va croiser le chemin de Stephanie, la femme qui était sa fiancée quand il était encore Michael Long. Et l'ironie, c'est que c'est l'actrice Catherine Eklund qui tiendra ce rôle. Et elle et David Hasselhoff vont d'ailleurs se marier quelques mois plus tard. Pour démarrer la seconde saison sur les chapeaux de roue, le premier épisode met en scène Garth Knight, le fils de William et donc le sosie de Michael Knight, puisque son visage a été copié dessus. Sauf que Garth est un dangereux psychopathe. Et il a créé Goliath, un tank qui possède la même armure moléculaire que Kit. La confrontation est explosive. Le tank, d'ailleurs, fera son retour dans un autre épisode spécial en cours de saison. Michael a d'ailleurs aussi une nouvelle technicienne, April Curtis, incarnée par Rebecca Holden, qui remplace donc Patricia McPherson, ce qui va provoquer l'ire des fans. Cette saison 2 va aussi tenter de lancer une autre série, très différente de celle-ci, avec un agent du gouvernement, David Dalton. C'est un épisode double de la série qui a servi de test à ce nouveau projet. Assez prometteuse, une série intitulée Dalton, Code of Vengeance, fut mise en chantier, où le personnage devenait d'ailleurs un peu différent, un voyageur solitaire à travers les États-Unis. Mais la série ne compta que 4 épisodes avant d'être stoppée. Devant la pression des fans, Patricia McPherson revient dans le rôle de Bonnie. À moitié détruite par un drone, Kit est remise en état par elle et améliorée avec de nouveaux gadgets. Et entre des enquêtes un peu plus banales, la saison 3 verra aussi le retour de Carr, la voiture maléfique. Mais le changement le plus spectaculaire s'effectuera au début de la saison 4, la dernière de la série. À nouveau détruite, son armure ayant été rendue inopérante, Kit est reconstruite. Par Bonnie, mais aussi par Reginald Cornelius III, RC3, un ingénieur génial qui va doter la voiture de nouveaux gadgets, comme un toit ouvrant, mais surtout un super pursuit mode, avec des parties rétractables qui surgissent, genre les Autobots, là, hein, et une vitesse qui peut passer à 480 km/h. C'est George Barris, le créateur de voitures comme la Batmobile de la série de 66 de Batman, qui sera chargé de cette nouvelle version de Kit. Dans ce qui était prévu comme le dernier épisode de la série, Scent of Roses, celle-ci n'étant plus vraiment en tête des audiences, Michael se marie avec Stephanie. Mais celle-ci est tuée. Après s'être vengé, Michael et Kit quittent la fondation. Ça aurait été une belle fin, sauf que cet épisode, en fait, n'est pas du tout diffusé en dernier. Donc, ça sert à rien. La série prend fin en avril 1986, après 4 saisons et 90 épisodes. Voilà, mais... est-ce vraiment la fin de Knight Rider? Michael Knight et Devon reviennent, en effet, toujours interprétés par David Hasselhoff et Edouard Muller, dans un téléfilm en 1991, K2000, la nouvelle arme, ou en anglais, Knight Rider 2000, ce qui s'approche du titre français de la série d'origine. La nouvelle Kit, K, kit 4000 va leur servir pour affronter Mitch Pileggi. Oui, mais le Mitch Pileggi des X-Files, qui est ici un tueur psychopathe. Et la musique vous fait penser un peu à Miami Vice, hein. Eh ben, c'est pas par hasard. Parce que son compositeur, c'est Ian Hammer, le compositeur de la fameuse série de Michael Mann. Ce téléfilm, K2000 La Nouvelle Arme, reste un unitaire sans lendemain. Mais 3 ans plus tard, en 1994, on retente le coup à nouveau. Mais ce coup-ci, absolument sans aucun des héros habituels de la série. Le téléfilm a pour titre Knight Rider 2010, et c'est plus une sorte de Mad Max avec une voiture qui parle. Ça n'a pas vraiment de rapport avec la série.
One man and one unique car began a war on crime. Now, a new team is taking it to the next level. Team Knight Rider.
Et oui, K2000 n'est pas mort. Nouveau retour en 1997 avec Team Knight Rider. Une série d'action qui durera une saison avec toute une équipe. Kyle, Jenny, Duke, Erika et Kevin. 5 coéquipiers, 5 voitures et plein de gadgets. Le lien avec K2000 est tellement éloigné que le titre français ne cherche même pas à y faire référence. En France, on appelait ça nom de code TKR. Et enfin, il faut attendre 2008 pour avoir une suite digne de ce nom. La série a pour titre « Le retour de K2000 », elle annonce bien la couleur. David Hasselhoff y fait une courte apparition, car le héros de la série est censé être son fils, Michael Tracer, qui pilote la Knight Industry 3000. Cette série sera un échec aux États-Unis, mais elle fonctionnera incroyablement bien en France, où elle devient un franc succès. Et je pressens que ce n'est pas la fin de K2000. Peut-être une nouvelle série de Justin Lin ? Peut-être un nouveau projet, Knight Rider Heroes ? On verra. Mais revenons un peu en arrière, en 1982. Le succès de K2000 va donner lieu au lancement d'autres séries avec des engins mécaniques plus ou moins surpuissants pour de nouveaux héros redresseurs de tort. En 1984, c'est Airwolf ou Supercopter. En 1985, ce coup-ci, c'est une moto, Street Hawk ou Tonnerre Mécanique. Et Glenn Larson, le créateur donc de Knight Rider, n'est pas en reste. Automan est lancé en début d'année 1984, avec une voiture, encore, mais surtout un compagnon virtuel que l'on croirait tout droit sorti de Tron. Et en 1998, Glenn Larson tente, alors là c'est mon préféré, The Highwayman, avec Sam Jones. Oui, le Flash Gordon du cinéma, au volant d'un camion ultra sophistiqué qui fait régner la loi dans un futur un peu à la Mad Max. En 2015, l'histoire de Knight Rider de K2000 trouve une conclusion morbide. Le procès que Glenn Larson avait intenté à Universal en 2011, les accusant de ne pas lui verser ses bénéfices sur la série et sur des dizaines d'autres qu'il a produites pour le studio, se résout par un accord. Un accord sans doute financier, mais tenu secret. Sauf que cet accord survient 4 ans plus tard. Glenn Larson est mort d'un cancer de l'œsophage. Il avait 77 ans. C'est sa veuve et ses 9 enfants qui vont bénéficier de cet accord. La semaine prochaine, pour le dernier Previously de la saison, nous explorons ensemble le cirque loufoque et volant des Monty Python et leur carrière à la télévision. Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.